Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Vous souvenez-vous des 3000 premiers jours de votre vie de 0 à 7 ans? Eh bien ce matin avec le mensuel Cerveau et Psycho, on s'intéresse à cette riche période qui détermine une grande partie de notre vie. Je vous propose une plongée passionnante dans les grandes étapes du développement jusqu'à l'âge dit de raison. Vous le pressentez, il s'agit d'une période où la maturation du cerveau et les apprentissages connaissent une incroyable intensité, une période merveilleuse où les enfants deviennent peu à peu autonomes et responsables. Parler, marcher, compter, faire du vélo, nous verrons comment les tout-petits font pour apprendre tant de choses dans un laps de temps si court. Nous vous révélerons les secrets de l'apprentissage implicite. Nous verrons quels sont les ingrédients indispensables pour les accompagner. De l'amour, bien sûr, mais également de la stimulation, de la présence et de l'attention. Et puis nous verrons à quoi ressemble cet environnement idéal pour favoriser leur développement. Nos experts attendent vos questions au 01 45 24 7000, sans oublier de nous contacter sur l'appli France Inter grâce au bouton « Réagir ». Bonjour Gonelle Boulet.
Bonjour.
On retrouve votre chronique Ma vie de parent vers 11h-20 au menu cette semaine.
Aujourd'hui, je vais vous parler ni plus ni moins d'un livre qui a presque sauvé ma vie de jeune maman, enfin la très jeune maman que j'ai été.
On attend ça avec impatience Gonelle. À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. À lire et BI. Grand bien vous fasse.
Un âne ? Non, c'est pas un âne, ça. Presque. Ça ressemble.
Non.
Un cheval ?
Un va.
Ah oui, un cheval.
Cheval.
Tu dis cheval ? Cheval ?
Va. Va.
Cheval ?
Va.
C'est bien.
Un pépé. Un
pépé ?
Bébé, bébé.
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 Extrait de LSD sur France Culture en 2018. Bonjour Ghislaine Dehaene.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, neuroscientifique, directrice de recherche au CNRS, médaille d'or du CNRS, et vous avez été membre de la commission Cyrulnik consacrée aux 1000 premiers jours de la vie et de l'enfant. Bonjour Sylvie Chocron.
Bonjour Ali.
Vous êtes également directrice de recherche au CNRS, neuropsychologue et directrice de recherche de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à la Fondation Hôpital Rothschild à Paris, et vous avez publié Comment voient les bébés aux éditions Le Pommier. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho. À la une, les 3000 premiers jours de 0 à 7 ans, les étapes clés du développement. Pourquoi les 3000 premiers jours et pas les 1000 premiers jours, ces 1000 premiers jours mis en avant par l'UNICEF il y a environ 2 ans?
Pour plein de raisons. D'abord parce que beaucoup de parents autour de nous, lecteurs, connaissances, beaucoup de mamans, si vous s'interrogez sur le fait que est-ce que tout vraiment est joué à 1000 jours. Et ça pouvait susciter une certaine forme d'inquiétude dans certains cas. Et puis il y a la fameuse phrase qu'on a souvent dite, que tout se jouait à 6 ans avant 6 ans. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait pas proposer un panorama au-delà des 1000 premiers jours pour voir quelles sont les étapes auxquelles d'autres capacités peuvent se développer chez l'enfant, peut-être se rattraper dans certains cas, en tout cas aller un peu plus loin que les 1000 premiers jours.
Sur ces 1000 premiers jours, Ghislaine Dehaene.
Alors les 1000 premiers jours, pourquoi il y a eu cette commission? C'est parce qu'en fait c'était la période qu'on connaissait le moins bien. Effectivement, tout n'est pas joué avant 1000 jours, mais c'était une période qu'on a découvert ces dernières années à cause des progrès en imagerie cérébrale, à cause de ce qui a été fait aussi chez l'animal, où on a pu faire des comparaisons, des capacités par exemple qu'on trouvait très humaines, on les a trouvées aussi chez l'animal, donc on comprend mieux la continuité entre l'homme et les autres animaux sur certaines de ses compétences, les progrès aussi en intelligence artificielle, des réseaux de neurones, donc comment l'ordinateur apprend. Évidemment, on se pose la question, est-ce que c'est la même chose chez le bébé ou pas? Et voilà pourquoi les 1000 premiers jours ont été un petit peu mis en avant.
Sylvie Chocron.
Oui, d'un point de vue de la recherche aussi, il y a eu de nombreux baby labs qui se sont ouverts. Il y en a un dans le laboratoire de Ghislaine, il y en a un dans mon laboratoire. Il y a plusieurs laboratoires qui ont développé comme ça de la vraie expérimentation chez les bébés à partir de la naissance. Ça a bouleversé les connaissances qu'on a dans le développement. Et donc les 1000 premiers jours, c'est sûr que c'est un socle vraiment des apprentissages, mais ça va continuer évidemment jusqu'à 6 ans, 7 ans, 20 ans, 90 ans.
Exactement.
Donc on oublie que les développementalistes, ils travaillent pas que chez l'enfant, mais ils travaillent tout au long de la vie.
Alors, Gisèle Dehaene, on le sait, le bébé est une personne à part entière. Il sait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit dès la naissance.
Oui, oui, effectivement, parce que il a des réseaux neuronaux qui lui donnent les possibilités déjà de traiter son environnement. On a longtemps cru que le bébé était une argile et que juste l'environnement modelait. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que par exemple, grâce à l'imagerie, que les grands réseaux qui sont décrits chez l'adulte, comme par exemple le réseau du langage, qui est un réseau qui implique surtout la région gauche du cerveau, ben on a déjà ces asymétries en faveur de la gauche chez le bébé. On voit déjà des réseaux spéciaux qui répondent au visage, au monde extérieur, au nombre. Et donc, on a déjà un bébé qui est très efficace par rapport à son environnement.
Sylvie Chocron.
Oui, oui, effectivement, dans le laboratoire, nous, on est très spécialisés pour aller étudier justement les compétences du nouveau-né. Et donc, on a montré que le bébé, effectivement, a des intuitions numériques. Si on lui fait entendre un certain nombre de sons, il va aller regarder l'image qui correspond à ce nombre de sons. Il a des intuitions dans le langage, comme le disait Ghislaine. Il sait voir aussi. On a longtemps cru que les bébés étaient aveugles les 40 premiers jours de leur vie, mais c'est pas du tout le cas. Les bébés ont une vision qui leur permet de percevoir les émotions, de percevoir le visage de leurs parents en particulier, de s'orienter. Et donc, on a aussi découvert voilà, qu'à 3-4 mois, on a des capacités d'empathie. Donc, on ne voit plus du tout le bébé comme on le voyait il y a 20 ans.
Et quelle est l'influence de la vie intra-utérine sur les futurs apprentissages ?
Alors là aussi, ça a été un peu une révolution de s'apercevoir que le bébé commençait déjà à apprendre. Alors on a beaucoup dit inné acquis, en fait nous on ne le voit pas. C'est-à-dire que dès le départ, dès que les neurones se connectent, en fait, il va déjà commencer à traiter son environnement. En fait, qu'est-ce que c'est que le cerveau ? C'est vraiment une machine de traitement de l'information. Et ça, dès le départ. Donc on voit que le bébé, enfin le fœtus entend la parole à l'extérieur, surtout de la voix de sa maman, qu'il goûte son liquide amniotique, donc va percevoir ce que mange sa maman, et ça va l'aider d'ailleurs, parce que vous savez que le goût et l'odorat sont très liés, donc à la naissance il va faire l'appariement entre ce qu'il a goûté et ce qu'il sent ensuite, et que ça a des influences qu'on retrouve chez l'adulte. Il y a eu des études très marrantes où on a montré que les adultes préféraient du ketchup, en l'occurrence, du ketchup avec de la vanille versus du ketchup sans vanille, en fonction, en fait, de ce que faisait la maman. Elle se mettait, alors c'est le lait juste après, mais elle se massait les seins avec des crèmes vanille qui avaient un goût de vanille. Et donc, chez l'adulte, il y avait toujours cette persistance pour ce goût vanille. Et bon, il y a le toucher aussi. On a vu ça chez les jumeaux sur les échographies, que les bébés, enfin le fœtus touchait plus son jumeau que les parois. Donc, il se passe déjà beaucoup de choses.
Oui, et d'ailleurs, si on continue sur le plan visuel, on a même montré qu'alors que la cavité intra-utérine est très sombre, le système visuel commence à se roder déjà avec des informations qui sont envoyées de l'œil au cerveau et vice-versa. Et puis, on ne l'a pas dit, mais d'un point de vue auditif, l'audition marche et la mémoire auditive, elle fonctionne. Et au dernier trimestre, on sait très bien, au dernier trimestre de grossesse, si on fait écouter des musiques au bébé in utero, ces musiques le calmeront plus tard quand il sera né. Donc, il y a une véritable mémoire.
Il est essentiel de favoriser une grossesse la plus apaisée possible. Un stress chronique de la mère aura des conséquences sur les apprentissages du nouveau-né ?
Alors, on sait maintenant que ce stress qu'on appelle prénatal, qui est un stress au sens large, alors c'est pas un petit stress de la maman, c'est vraiment des stress importants qui ont pu être vécus pendant la grossesse, vont avoir un effet futur, évidemment, sur le développement, sur les apprentissages, voire même sur le développement cérébral, mais je pense que Ghislaine pourrait...
Oui, effectivement, mais quand on parle de stress, c'est aussi...
Stress chronique. Hein.
Oui, quand on parle de stress chronique, c'est pas forcément le stress émotionnel, parce que souvent les gens pensent seulement à ça, mais par exemple, une mauvaise croissance du bébé, hein, qui est un stress en fait pour le cerveau, parce que le cerveau est le premier organe que doit alimenter le corps, parce que c'est celui qui consomme le plus, hein, c'est un des organes qui consomme 25% de notre métabolisme, donc c'est très important chez l'enfant. Et donc, les troubles dans la grossesse peuvent affecter le développement cérébral. Mais comme on le dit toujours, le cerveau est un organe d'apprentissage. Mmh. Donc quand on dit ça, les gens sont terrorisés en disant « oh, voilà, c'est fini, mon bébé, il est foutu ». Non, nous apprenons.
Ça peut culpabiliser les mères, Sylvie Chocron.
Effectivement, et donc, bien sûr, on ne peut pas nier les effets de stress importants, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi d'un point de vue social, alimentaire, etc. Enfin, tout, on connaît ce stress-là. Par contre, il ne faut jamais oublier que le bébé, l'enfant, est le résultat de l'environnement, du développement de son cerveau, de l'éducation. Et donc, il va faire avec tout ça pour faire au mieux. Et le cerveau, certes, c'est un instrument de traitement de l'information, mais c'est aussi un instrument à résoudre les problèmes. Et donc, à chaque fois qu'il sera face à un problème, il essayera de le résoudre. Et c'est pas parce qu'il y a eu ces difficultés, ces conditions adverses, qu'on va pas pouvoir, bien au contraire, les dépasser et s'en sortir.
Sébastien Boller. Mmh.
Oui, oui, moi ce qui me frappe dans ce début de conversation, c'est qu'on a vraiment deux volets déjà in utero qui sont les comportements innés avec quelque chose qui est déjà, on le sent, hein, programmé par exemple pour reconnaître les visages très tôt, pour développer la vision très tôt après la naissance, y compris moi des travaux qui m'avaient fasciné, je crois que c'est quand même assez tôt après la naissance, c'est la capacité à reconnaître quand une personne est d'une autre ou est au contraire un adversaire, oui. Comme s'il y avait une forme de reconnaissance des comportements altruistes très très tôt, et puis évidemment, bah, tout ce qui est de l'empreinte de l'environnement sur le cerveau qui est malléable et qui se produit très très tôt. Moi, j'avais entendu ces histoires de bébés en Inde qui étaient au contact du liquide amniotique de maman qui mangeait beaucoup de curry et qui après ne supportaient que les aliments à base de curry, y compris du lait néonatal dans lequel il fallait ajouter du curry pour qu'il l'apprécie. Donc il y a vraiment une capacité d'adaptation du système sensoriel sous toutes ces modalités.
Et pas seulement du système sensoriel, c'est déjà, parce que ça c'est une des choses aussi qu'on a vu en imagerie, on a toujours cette idée que le cerveau, par exemple, les régions frontales, qui sont les régions de la planification, elles marchaient pas chez le petit. En fait, on voit même déjà chez le prématuré qu'elles sont fonctionnelles. Donc, il y a un ensemble d'activités cérébrales pour résoudre les problèmes dans lesquels cet organisme est. Alors, je dis organisme entre guillemets, mais c'est parce que c'est le problème de tous les cerveaux, du cerveau de l'animal, et on est le fruit d'une évolution. On a un certain nombre de capacités communes avec les primates, mais aussi avec les souris, par exemple, sur la capacité du nombre, sur la capacité de reconnaître son congénère, c'est crucial pour beaucoup d'espèces, c'est pas seulement pour l'humain. Et donc notre problème, c'est plus de comprendre qu'est-ce qui fait, par rapport disons au chimpanzé, hein, qui est là, ou le bonobo qui est l'animal le plus proche de nous, qu'est-ce qui fait que les humains sont quand même, ben c'est nous qui sommes là autour de ces micros et pas
des chimpanzés.
Malgré certains.
Alors justement, ce qui aide probablement, et c'est ce que disait Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on a montré que les bébés sont capables d'imiter les émotions dès la naissance. Et effectivement, dès l'âge de 3-4 mois, si on leur montre des petites vidéos avec des personnages qui s'entraident ou des personnages qui se gênent, ils vont préférer regarder les personnages qui cèdent. Et quand ils pourront à 6 mois les attraper, ils attraperont ceux qui s'entraident et ils voudront pas attraper ceux qui se gênent. Et donc effectivement, c'est comme si, alors c'est dur, comme disait Ghislaine, c'est dur de dire inné à qui. On a plus l'impression que voilà, on est fait pour ça et que l'environnement va nous aider.
On est une espèce sociale. On pense toujours, voilà. On a toujours le loup est un loup pour l'homme, mais c'est complètement faux. En fait, le bébé comprend très vite que l'adulte a des connaissances de l'information, que l'adulte va l'aider, c'est-à-dire que l'adulte est quelqu'un de fiable. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit problème quand il y a des troubles de l'attachement, parce que du coup l'adulte ne devient pas la référence fiable, mais c'est une référence non seulement pour la stabilité émotionnelle, mais pour les connaissances. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que sinon on reste souvent avec l'idée, le bébé c'est les émotions, c'est gousi-gousi, c'est mignon, c'est charmant, mais non, le bébé apprend. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que dès les premières semaines de vie, même donc in utero, le bébé commence à faire des modèles du monde dans lequel il va évoluer, et ces modèles sont affinés avec le contact avec les autres, avec les informations qu'apportent les parents, avec le contact que fait par la parole notamment, parce que c'est pas juste la sociabilisation comme on pourrait l'avoir dans des grands groupes de macaques, par exemple, c'est aussi la parole qui est absolument spécifique à l'être humain pour communiquer.
Tous les enfants connaissent le même processus de développement, Sylvie Chocron ?
Alors, on peut pas dire le même, mais le même type de grandes étapes, oui. Alors après, il faut pas oublier non plus qu'on parle aujourd'hui beaucoup de neurodiversité. C'est pas un mot en l'air, c'est l'idée quand même qu'on a un spectre très large de façons de se développer, de façons d'apprendre. Ça peut inclure aussi ce qu'on appellerait des atypies, hein, dans le développement. Et donc maintenant, on a plus l'idée d'un continuum plutôt que l'idée idée d'enfants qui seraient normaux et d'enfants qui se développeraient de manière anormale.
À chaque bébé son rythme.
Exactement, et ça c'est très important.
Oui, à chaque bébé son rythme, mais dans une certaine mesure, oui. Et c'est pour ça que Sylvie, qui est neuropsychologue, peut repérer des enfants qui commencent à dévier de façon un peu trop importante. Et donc ça, c'est important de les reconnaître, non pas pour les stigmatiser, mais pour comprendre ce qui fait... Parce que le bébé, en fait, il essaye d'apprendre. Et pourquoi il va dévier de la trajectoire, disons, typique, et comment on peut lui amener les informations et les choses dont il a besoin pour éviter de trop l'éloigner de la trajectoire typique.
Et c'est pour ça, Sylvie Faucron, qu'il est important de bien connaître les grandes étapes du développement des bébés et des enfants quand on est parent.
Effectivement, c'est extrêmement important de repérer des choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, un bébé qui n'a pas de contact visuel à la naissance, qui n'explore pas visuellement son environnement, c'est très important de pouvoir le repérer et de pouvoir l'aider à acquérir ces processus qui sont déterminants pour tous les apprentissages.
Alors j'aimerais qu'on s'intéresse à la plasticité neuronale des enfants. Expliquez-nous un petit peu, Ghislaine Dehaene, entre 0 et 1 an, est-il vrai que c'est la période où la plasticité neuronale est la plus grande chez les, bah, chez les bébés?
C'est un cerveau en construction. Ouais. Il faut comprendre qu'on a plusieurs phénomènes en jeu. Le premier, c'est que quand on apprend, évidemment, il faut qu'on stabilise ce qu'on a appris. Parce que si on apprenait et qu'on oubliait immédiatement, on ne pourrait rien faire. Donc il y a, au fur et à mesure de l'apprentissage, des stabilisations de ce qu'on a déjà appris. Et évidemment, le bébé, comme il a encore appris très peu de choses, eh bien, il a un espace de découverte beaucoup plus grand que le nôtre, où on sait déjà que, par exemple, je sais comment je dois réagir, par exemple, par rapport à vos mimiques. Le bébé, il doit apprendre en fonction de
j'espère ce que fait. Mes mimiques ne vous effraient pas trop.
Non, mais j'essaye de voir si vous suivez. Donc voilà. Donc ce qui limite un peu l'apprentissage, par exemple, l'apprentissage d'une deuxième langue. Pourquoi c'est si difficile? Ben, c'est parce qu'on a automatisé tellement de processus pour sa langue maternelle qui ne marche pas forcément pour la deuxième langue. Par exemple, l'accent en français est toujours fixe sur la dernière syllabe, ça n'est pas du tout en anglais, en espagnol, il est variable. Et nous, français, on a beaucoup de mal à apprendre ces langues parce qu'on n'entend pas le déplacement d'accent, on n'entend pas la différence entre bébé et bébé. Alors, là, je l'ai accentué de façon très importante, mais vous avez vu, j'ai accentué soit la première, soit la seconde. Et comme en français, ça ne sert pas, ben, on est devenu sourd à ce déplacement d'accent. Donc, évidemment, ça joue. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un moment où il y a beaucoup de multiplication de synapses, il y a beaucoup de choses qui se passent, et donc il y a un petit peu de la plasticité.
Donc l'apprentissage modifie l'architecture du cerveau. Plus l'enfant est stimulé, plus il répète, plus il mémorise, plus son cerveau crée de nouvelles connexions.
Bien sûr, et donc Ghislaine parlait de cette plasticité. On pourrait dire que le cerveau, il va se spécialiser en fonction de ce qu'on va faire. Donc on parle d'élagage souvent neuronal. Donc on va éliminer tout ce qui ne nous sert pas et au contraire, on va renforcer les connexions entre les régions qui effectivement sont très impliquées dans les apprentissages qu'on fait.
Que se passerait-il si dans les 6 premiers mois de sa vie, un bébé n'était pas stimulé ?
Ah, en fait, c'est très simple. On connaît ce cas-là. C'est le cas des enfants sauvages. Et donc, si un bébé naît parfaitement équipé d'un point de vue cérébral, il a tout ce qu'il faut pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour faire tout ce qu'il doit faire, mais qu'il est placé dans la forêt sans stimulation humaine avec des animaux, c'est le cas des enfants sauvages, il ne parlera peut-être jamais, alors qu'en réalité, il avait tout l'équipement pour le faire.
Sébastien Boller.
Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'il y a une période critique pour que le langage puisse être acquis. Et que si ça ne s'est pas fait avant un certain âge, après ça devient très 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 difficile. Donc il y a des programmes de développement génétique qui sont prêts à recevoir ensuite l'input social au bon moment. Et évidemment, il faut que l'input social soit là, il faut que d'autres humains soient là pour transmettre le langage en l'occurrence. Mais il y a des périodes critiques pour la vision, pour l'audition. C'est fascinant de voir comment le cerveau est réglé un peu comme une partition, prête à recevoir du contenu. Alors non, peut-être pas tout à fait.
Je disais que la notion de période critique, elle est un petit peu remise en question, en particulier aussi pour la vision, parce qu'on a l'impression qu'on avait une vision comme ça très stricte des périodes critiques, fermées, des fenêtres fermées pour l'apprentissage, et on est en train de découvrir que ces fenêtres, elles peuvent se réouvrir à d'autres moments de la vie, et que c'est pas aussi rigide que ce qu'on pensait avant.
Il y a d'ailleurs beaucoup de recherches pour savoir comment on peut réouvrir ces périodes critiques,
c'est tous les
notamment pour récupérer après des lésions ou en redéveloppant dépend des régions qui n'étaient pas prévues, par exemple, pour faire du langage et qu'il faut maintenant qu'elles fassent du langage.
Et pour votre question, Ali, il y a une chose très importante, c'est aussi la nourriture affective. Il y a eu ces fameuses observations dans certains orphelinats où les enfants étaient délaissés et n'avaient pas la nourriture affective avec une figure d'éducation qui est capable d'apporter une affection au quotidien avant un certain âge. Et le cerveau, je parle sous votre contrôle, se développait carrément moins, y compris en volume.
Oui, alors maintenant, on parle de milieu suffisamment enrichi. Et cette notion de milieu enrichi, c'est vraiment enrichi à tout point de vue. Enrichi sur le plan des stimulations. Il faut que le bébé soit stimulé, juste comme il faut, avec des stimulations efficaces, pas trop ni trop peu, parce que trop, ce serait mauvais aussi, on va peut-être en parler. Mais il faut aussi que le milieu soit enrichi sur le plan, effectivement, relationnel, affectif, de l'interaction. Voilà. C'est un tout, il faut le voir comme une intégration.
En fait. C'est une co-construction entre les parents et l'enfant. Et c'est ça qu'il faut aussi que les parents comprennent, c'est que le bébé est déjà une personnalité. Par exemple, il y a des bébés, il faut le dire, plus difficiles que d'autres. Il y a des bébés très souriants, très dans l'interaction, d'autres moins. Et donc, c'est une adaptation entre deux personnalités qui va se faire au fur et à mesure.
Un accordage.
Un accordage, tout à fait. Et c'est très important. C'est très important.
Parler, marcher, compter, faire du vélo. Dans un instant, nous verrons comment les tout-petits font pour apprendre tant de choses dans un laps de temps si court. Nous vous révélerons les secrets de l'apprentissage implicite. En attendant, on écoute Jacques Higelin. Ce qui est dit doit être fait à 10h27.
Ce qui est dit doit être fait, ce qui est fait est écrit, c'est comme ça, c'est la vie. 24, 9, 90, ma petite gonzesse a vu le jour dans la nuit. C'est comme si un tremblement de terre, un volcan, un raz-de-marée me secouait de la tête aux pieds. Le long de la voie lactée, le long de la voie. Soleil de plomb dans la nuit noire, je me sens comme un lion dans un square. C'est la vie, c'est le traquenard. De l'aube jusqu'au lendemain matin, j'ai alerté tous les pingouins de ma galaxie. Je suis papa. Si on savait tout de ce qui nous reste à prouver, est-ce qu'on se mouillerait jusqu'à genre de petite beauté qui vous ligote au pied de son berceau. Va, ma reine, va là où tu veux. Mon amour jamais ne te quittera des yeux. Va, mon ange, ouvre le chemin. Du destin. Y a tant de folie et trop de misère. Tout ce qui a été dit reste à faire. C'est comme ça. Mais pourquoi on laisse tourner le monde à l'envers sans prendre l'air, sans se donner le temps. Leur tourner à l'endroit où il fait bon vivre pour la fleur du genre humain, celle qui a besoin d'être arrosée. Tous les jours, comme la pluie, belle des roses de l'amour, comme le plus beau.
Ce qui est dit doit être fait.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Et en partenariat avec le mensuel Cerveau et Psycho, coup de projecteur sur les fascinants 3000 premiers jours des enfants de 0 à 7 ans. Comment font-ils pour apprendre autant de choses? Marcher, parler, compter, faire du vélo, socialiser? Toutes vos questions de 7 à 97 ans au 01 40 j'oublie le standard que je connais depuis tant d'années, 01 45 24 7000 ou en réagissant sur l'appli France Inter. Tiens, j'aimerais qu'on revienne, Sylvie Chocron, sur ce que vous disiez il y a quelques instants sur la surstimulation. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue.
Alors, en fait, on parlait tout à l'heure de l'intérêt de connaître les grandes étapes de développement. C'est important pour aussi savoir ce à quoi on s'attend à chaque âge et pour pas précipiter, trop stimuler les enfants, parce qu'on sait, on a dit que trop peu de stimulation, ça pouvait être délétère pour les apprentissages, les acquisitions, le développement cérébral, mais trop de stimulation et surtout trop tôt.
Avec une idée de performance.
Exactement, avec cette angoisse de surperformance et d'éduquer très tôt les enfants et de les stimuler, de les exposer très tôt au langage écrit, à la reconnaissance des lettres, au calcul, etc. Les enfants ont des intuitions pour faire tout ça. On sait maintenant que leur perception visuelle, elle est suffisante pour qu'on les stimule, effectivement, visuellement, avec des outils adaptés. Et maintenant, il y a des stimulations adaptées pour les bébés, qui sont faites en collaboration avec les chercheurs. Mais il ne s'agit pas de stimuler trop en fréquence ou trop en intensité les bébés, parce que sinon, ça pourrait aussi avoir un effet délétère sur leur développement cérébral.
Mais les parents veulent bien faire.
Oui, alors bien faire, ce n'est pas trop faire. Et comme disait Ghislaine tout à l'heure, il y a cet accordage des cerveaux, et on a montré d'ailleurs que les enfants, avec leurs parents, sont dans un tel accordage que leur cerveau se synchronise. Il y a vraiment cette relation d'être sur la même longueur d'onde et de s'adapter l'un à l'autre. Il ne s'agit pas de les rendre lecteurs, adultes, trop tôt.
Voilà, Ghislaine Dehaene, pédiatre et neuroscientifique.
Oui, je pense qu'en fait, les parents ne se font pas assez confiance. Je veux dire, c'est la même façon que vous agissez avec un autre adulte, vous allez naturellement vous ajuster à l'enfant si vous le regardez, si vous babillez avec lui, si vous échangez. En fait, il faut construire cette, entre guillemets, diade, mais c'est exactement la même chose que lorsque on discute autour de cette table. C'est de savoir quand s'arrêter, quand recommencer, quand est-ce qu'on nous passe la parole, quand est-ce qu'au contraire, on doit écouter. Et donc, je pense que pour le bébé, si vous le regardez bien, vous allez naturellement lui apporter ce qu'il a besoin. Faites-vous confiance.
Oui, et alors, juste pour rajouter un mot à ce que dit Ghislaine, moi je dis toujours aux parents et aux mamans, surtout, c'est elles qui ont le meilleur sens clinique. Et donc, il faut vraiment, quand on dit il faut se faire confiance, c'est se faire confiance même quand un enfant a un souci, que tout le monde vous dit que tout va bien, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vous faire confiance parce que c'est vous qui avez le meilleur sens clinique, c'est vous qui ressentez le mieux les difficultés ou les facilités de votre enfant, et il faut s'écouter.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde sur un concept aujourd'hui remis en question, l'idée que le développement intellectuel des bébés avance par paliers, du plus simple au plus complexe. En fait, les bébés et les enfants avancent, stagnent, régressent, et c'est tout totalement normal.
Oui, c'est totalement normal. En fait, le cerveau, on a l'intuition que notre cerveau est très intégré, qu'on est une personne qui parle actuellement, par exemple. Mais en fait, notre cerveau est constitué de plein de réseaux qui ont chacun un calendrier de développement très différent. Et donc, et l'enfant aussi fait attention à telle et telle chose. Donc, par moment, il est en train d'essayer d'apprendre à marcher. Ça, c'est comme vous, quand vous essayez d'apprendre un cours ou de lire un livre très difficile, vous êtes complètement focalisé là-dessus et vous allez laisser un peu tomber le reste parce que vous voulez arriver à marcher. Et donc, peut-être, vous allez moins parler à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire normalement qu'on régresse totalement, parce qu'on a des maladies aussi rares, heureusement, où il y a des régressions, et à ce moment-là, il faut s'inquiéter. Donc c'est toujours aussi une attention à l'enfant et à ce qu'il fait.
Le développement avance comme des vagues qui se chevauchent, hein. C'est du psychologue américain Robert Ziegler.
Alors oui, non seulement ça avance par comme ça, ce que vous disiez, des vagues qui se chevauchent, qui s'enrichissent, etc. Mais on sait aussi, et Ghislaine le sait bien, que dans le développement, il y a ce qu'on appelle des courbes en U. On dit en anglais U-shape, c'est-à-dire que les enfants peuvent être capables de faire quelque chose à un moment, puis cette fonction n'est plus visible, puis elle va réapparaître. Et donc c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le développement.
Sébastien Boller,
oui,
du Cerveau Psycho.
Il y avait un exemple d'Agnès Florin dans son article sur la capacité numérique de l'enfant qui commence à se développer assez tôt sur un mode implicite, la capacité à repérer si on met un lapin dans un chapeau puis un deuxième, on s'attend à ce qu'il y en ait deux à l'arrivée, et que ça se développe par exemple vers déjà l'âge de 5-6 mois. Et par contre, quand le langage arrive, ça peut bouleverser un petit peu les choses, parce que les mots du langage peuvent créer un chevauchement de vagues dans la représentation cognitive du nombre chez l'enfant, qui fait qu'à par moment il pourrait perdre ce petit sens de la numération pour le retrouver très vite après grâce à la pensée symbolique. Mais
je ne suis pas sûre d'être d'accord, parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, beaucoup d'expériences sont sur le comportement de l'enfant. Nous, quand on regarde le cerveau, parce que j'ai l'avantage, moi, d'avoir des techniques d'imagerie, c'est un peu ma spécialité, on voit en fait que le développement est très continu, par exemple, sur le nombre. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous allez entre percevoir et réagir à une perception de les lapins, par exemple, et ça, en fait, quel que soit l'âge, vous allez réagir au fait que si vous avez un lapin, puis deux lapins, et que tout d'un coup on vous en montre trois, vous allez avoir une surprise. Mais évidemment, l'exprimer en mots, c'est là la difficulté. Voilà, oui. C'est le passage où on voit ces régressions, c'est en fait quand l'enfant doit réfléchir sur ce qu'il a vu pour expliquer et pour passer par le système verbal, qui a son propre développement aussi. Donc voilà, on a des choses qui se développent, et après, on a un système verbal qui doit traduire ça pour transmettre à l'autre. Et c'est ça la difficulté. C'est plutôt le passage de ces connaissances qu'on a tous, en permanence, on fait plein de calculs inconscients, implicites, comme on dit, en permanence. Et puis à un moment, il faut que je vous dise ce que j'ai dans ma tête pour. Et donc c'est ce passage qui est la difficulté.
Il faut que tout ça s'accorde. Mais dans la plupart des cas, ça s'accorde très bien.
D'ailleurs. Oh oui, oui, oui. Ouais.
Une chose fascinante, Ghislaine Dehaene, c'est que les bébés comprennent le langage bien avant de parler.
C'est-à-dire, ils comprennent le langage, ils ont le système perceptif et fonctionne très bien et très tôt, on a dit in utero, mais arriver à coordonner tous les muscles pour produire, c'est difficile. Et donc ça explique qu'en fait les bébés comprennent déjà beaucoup de choses, alors que ils sont encore en train d'essayer d'accorder tous leurs muscles pour dire le mot. On a des erreurs, par exemple, jusqu'à 3 ans, tout à fait normal de dire le crin pour le train, etc. Mais en fait, très tôt, ils ont des mots à la fin de la première année de vie, déjà 50 mots. Et puis, ils font déjà comprennent déjà des petites phrases. On a fait des études où on dit « je mange la fraise », ça c'est correct, ça marche très bien, à 18 mois, ils sont tout contents, mais « je la fraise », alors là, ça marche pas du tout, parce que « fraise » étant un nom, ça peut pas être là, à cette place. Et on voit des réponses de surprise quand on enregistre avec le EEG, avec l'électroencéphalographie, le cerveau. Donc en fait, ils sont très en avance, ils comprennent beaucoup plus de choses, et ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. C'est un peu la même chose quand vous parlez, par exemple, une deuxième langue. Évidemment, vous comprenez beaucoup plus que vous ne pouvez exprimer, souvent, quand vous n'êtes pas totalement bilingue. Et donc, c'est un petit peu la même question.
Quelles sont les notions de calcul des bébés ? Sont-ils des mathématiciens en herbe ?
Alors, effectivement, donc moi, je suis dans un laboratoire où on a des chercheuses éminentes qui travaillent là-dessus et qui ont montré, effectivement, qu'il y avait cette intuition numérique, mais dès la naissance. Et donc, j'expliquais tout à l'heure, si on fait écouter un certain nombre de sons et qu'on propose au bébé soit ce nombre-là visuellement, soit 3 fois plus, ils vont regarder le bon nombre. Et donc, ils ont cette intuition-là, mais pas simplement pour la quantité, ils ont cette intuition aussi pour la durée, pour la longueur. Et donc, clairement, on a la sensation que les bébés naissent équipés de structures qui vont leur permettre d'évaluer la quantité, la durée, la longueur, et ce sera crucial pour le développement numérique ultérieur. Ensuite, il ne faut pas oublier, Stanislas Dehaene l'a montré, que le calcul, le nombre, etc., ça repose avant tout sur des aspects visuo-spatiaux. Et donc, la perception, on a toujours l'impression, on voit les choses de manière complètement séparée. On a l'impression qu'il y a la perception d'un côté, l'espace de l'autre, le nombre de l'autre. Et en réalité, le nombre, la quantité, l'ordre de grandeur vont se développer sur notre perception visuelle, spatiale. Et tout ça fait un tout.
Ghislaine Dehaene.
Oui, on partage. Par exemple, on a l'impression que c'est extraordinaire de dire que des bébés sont capables de faire la différence entre 4 et 8 objets, par exemple, ou 12 objets. Mais les souris le font, les pigeons le font. Donc ça, c'est pas extraordinaire. En fait, ce sont des capacités qu'on partage, alors qu'on comprend pas. On sait pas exactement comment un cerveau de pigeon, de souris ou de bébé le font, mais on sait qu'ils savent le faire. Ce qui est très étonnant, c'est que les humains, et seulement les humains, arrivent à développer le calcul exact. C'est-à-dire, arrivent à dire que 4 et 5, c'est différent, et qu'il y a la même différence entre 4 et 5 qu'entre 99 et 100. Et ça, c'est des choses, parce qu'on parle beaucoup du tout petit, et pas tellement de ce qui va se passer pour, disons, vers 5-6 ans, où, en fait, on va avoir le développement du calcul exact, le développement d'une... À 3 ans, ils savent parler, ils savent s'exprimer, mais le développement de la syntaxe, de phrases très longues, etc., continue à se développer. On se prépare pour la lecture. Et là, il y a aussi des étapes importantes dont on pourrait parler.
Alors, je vous propose d'évoquer les grandes étapes, les étapes clés du développement des bébés et des enfants. Hein. Je me suis appuyé sur le cerveau et psycho de ce mois-ci. Alors, entre 12 et 24 mois, le bébé marche seul, descend les escaliers, développe une préférence pour une main. Il acquiert un discours télégraphique, comprend les mots familiers, il comprend de mieux en mieux les expressions faciales d'autrui, et puis il expérimente beaucoup. Hein, Sylvie Chocron.
Ah bah oui, entre 12 et 24 mois, c'est l'âge de l'expérimentation. Et d'ailleurs, les pédiatres le savent bien. Examiner un enfant de 18 mois, c'est bien plus compliqué qu'examiner un enfant de 6 mois. Et les parents le savent bien aussi. Et donc, c'est l'âge, effectivement, la locomotion va changer énormément de choses. Elle va changer l'attention, parce que le bébé va se diriger vers des choses qui l'intéressent. Et puis, à l'inverse, il va s'intéresser à des choses vers lesquelles il va. Ça change la vision, évidemment, parce que la vision du bipède, c'est pas la vision du bébé qui rampe, ça change les interactions parce qu'on peut se diriger vers les personnes. Ça, donc, en fait, les déplacements, la locomotion, va avoir un énorme effet entre 12 et 24 mois, plus le langage. Mmh. Et donc, du coup, entre les deux, entre la locomotion qui permet d'aller explorer et le langage qui permet de communiquer, on a des bouleversements majeurs.
Alors, à 2-3 ans, l'enfant monte et descend des escaliers, il sait tourner les pages d'un livre, il sait sauter à pieds joints, coupe avec des ciseaux, il comprend de plus en plus de mots, il sait modifier ses demandes selon son interlocuteur. Mais encore, Ghislaine Dehaene, à cette période de 2-3 ans.
2-3 ans, d'abord, il faut que tout le monde sache qu'à 3 ans, un enfant est totalement compréhensible, ouais, et sait faire des phrases. En fait, le gros du langage est acquis. Donc, si vous avez un enfant qui a encore des difficultés, à part des difficultés de prononciation, il faut vous inquiéter et ne pas croire le médecin qui vous dit d'attendre. Ça, c'est très important.
Ah, ça, c'est important, ça.
Oui, oui,
alors,
oui,
on a longtemps dit aux gens que l'orthophonie commençait à 4 ans, que jusqu'à 4 ans, jusqu'au jour de ses 4 ans, un enfant pouvait parler. En réalité, pour qu'il parle le jour de ses 4 ans, il faut qu'il, comme le dit Ghislaine, qu'il ait commencé déjà à parler. Donc un enfant qui n'a pas du tout de langage, entre 2 et 3 ans, effectivement, il faut se poser la question, il faut aller consulter, parce que la consultation, elle n'est pas là pour sceller les choses et pour poser un diagnostic inquiétant. Elle est là pour aider les parents à stimuler leur enfant au mieux, pour les guider, pour qu'ils puissent aider leur enfant à développer son langage.
Oui, et puis il faut rappeler quand même que en France, nous sommes très en retard pour diagnostiquer tous les troubles du neurodéveloppement, qui concerne quand même à peu près 10% des enfants. Donc on n'est pas, c'est pas des taux faibles. Et c'est pas non plus dire que les enfants, à nouveau, certaines personnes pensent que dès qu'on pose un diagnostic, on enferme, oui, l'enfant dans sa pathologie. Exactement. J'ai entendu ça combien de fois. Non, un enfant est en souffrance parce qu'il essaye de s'exprimer, il n'y arrive pas, il ne se fait pas comprendre. Il faut à tout prix l'aider. Et on a des moyens de l'aider. L'orthophonie marche, la neuropsychologie marche.
Oui, et puis plus on leur expliquera tôt, plus on peut guider les parents. Donc oui, parfois on met même pas en place une thérapie. Parfois il s'agit simplement d'éduquer les parents pour qu'ils stimulent leur enfant de la manière la plus adaptée.
Continuons à évoquer ces grandes étapes clés du développement des enfants. C'est une infographie et un papier d'Agnès Florin, qui est professeure de psychologie de l'enfant et de l'éducation à Nantes Université, dans Cerveau et Psycho. Sébastien Boller.
Si on va vers 3-4 ans, il y a quelque chose de très important qui se met en place, c'est les capacités d'inhibition. Mm-hmm. Je sais pas, mais alors c'est jamais strict, c'est jamais un âge très précis, mais la capacité de contrôle de soi, d'attendre son tour pour parler. Donc c'est lié au développement aussi de parties du cerveau, comme le cortex préfrontal, qui sont capables de moduler des parties sous-corticales qui vont plus être tributaires des envies, des impulsions, des désirs. Et l'enfant, comme ça, arrive aussi à trouver sa juste position socialement. Ça, c'est un âge très, très important pour ça. Mais ça va se développer jusqu'à l'âge adulte. Alors
là aussi, oui, c'est très marrant, parce que vous avez dit que c'était le cerveau. Et puis je discutais l'autre fois avec un ensemble de crèches qui ont des crèches un peu partout. Et elle me dit, voilà, nous, à Hong Kong, les enfants à 18 mois, il s'assoit pour écouter une histoire, mais je ne peux pas proposer du tout ça en France, parce qu'en France, on me dit toujours que c'est impossible. Donc, c'est à nouveau une illustration que le cerveau offre des capacités, mais que l'environnement, l'éducation, alors je ne sais pas si c'est mieux d'être comme à Hong Kong ou comme en France, mais tout ça est très modulable.
Alors, Pour le dire vite, donc entre 4 et 7 ans, l'enfant affine ses capacités motrices, langagières, cognitives. Il développe son sens moral, apprend à lire et écrire évidemment, à mieux dessiner. Il commence à comprendre les sarcasmes également. Et puis vient l'âge de raison. Cet âge de raison aux alentours de 7 ans, c'est quoi exactement l'âge de raison, Sylvie Chocron ?
Alors, Sébastien tout à l'heure disait ses capacités d'inhibition, elles se développent à partir de 3-4 ans. En fait, il ne faut pas oublier que si l'école maternelle est à 3 ans, c'est parce que c'est justement un âge où ils peuvent être assis, où ils peuvent comprendre ce qu'on attend d'eux, etc. Et puis, tout bêtement, si le CP est à 6 ans, ben c'est parce qu'à cet âge-là, l'enfant a acquis l'âge de raison. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité de contrôler son comportement, comme on le disait tout à l'heure, d'attendre son tour, d'inhiber des comportements parasites. Par exemple, quand on est en CP, en classe, ben non, on ne peut pas se lever et courir dans la classe pendant que la maîtresse est en train de parler. Et donc, en fait, l'âge de raison, c'est la capacité à non seulement contrôler son comportement, ses différentes capacités, etc., mais aussi répondre aux attentes de l'autre.
Et ça doit alerter les parents si à l'âge de 7 ans, tout ce que vous racontez ne se met pas en place ?
Alors, ça doit alerter les
parents. Sans être culpabilisant.
Oui, non, mais ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même... On ne peut pas le nier, et Ghislaine en parlait avant, il y a un rôle de l'éducation très important. Et avant, je disais, le cerveau est le résultat, finalement, de l'éducation, de son propre développement, des stimulations qu'il reçoit, de l'environnement, etc., des affects, de tout ça. Et on ne peut pas nier qu'il y a quand même un rôle de l'éducation sur ces capacités-là de contrôle. Et donc, cet âge de raison, il va dépendre aussi de ce qu'on attend de l'enfant, ce qu'on lui demande.
10h47, allez, il est l'heure de retrouver Ma vie de parent de Gonaël Boulay.
France Inter.
C'est que sur les reproches, vous. Hein. On est là pour tout, pour tout, pour tout.
Grand bien vous fasse.
Si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants, après tout, pourquoi pas ?
Salut ! Merde !
Alors, Gonaël Boulay, vous nous parlez ce matin d'un livre qui a sauvé les premiers mois de votre vie de jeune mère.
Oui, alors bon, cela remonte maintenant à quelques années, hein, mais à chaque fois que je vois des futurs jeunes parents, j'ai en effet envie de leur offrir ce petit livre. Car s'il y a beaucoup de bouquins un peu inutiles sur le marché de la parentalité, voire, j'ose le mot, culpabilisant ou néfaste, je crois que je dois une reconnaissance éternelle à ce livre-là, et donc à son auteur. « Bébé, dis-moi qui tu es » du pédiatre Philippe Grandsen a été ma bible, ma bouée, et peut-être ce qui m'a apporté un maximum de zénitude et de réconfort durant mes tout premiers mois de maman. Un livre qui, malgré la fatigue et l'impression de me prendre un tsunami dans la tête, m'a permis de profiter au mieux de cet événement.
Alors, qu'y a-t-il de si révolutionnaire dans ce livre, Gonaël ?
Eh bien, justement, a priori, pas grand-chose. Hein. Si ce n'est de nous inviter à considérer le nourrisson tel qu'il est. Non pas comme un être surgi d'un coup dans la vie, mais comme un être qui vivait sa petite vie tranquille in utero depuis plusieurs mois, et qui, durant quelques semaines encore, quelques mois, va continuer à la vivre plutôt à son rythme qu'au nôtre. Un être de transition, quoi. Ça paraît bête, mais quand on y pense de ces façons-là, en fait, ça change pas mal de choses. Et oui, notre nourrisson avait déjà sa vie avant. Et si le temps de le faire rentrer dans un rythme d'humain viendra bien assez vite, les premières semaines, c'est juste à nous de nous adapter. Et accepter ce rythme, en fait, c'est s'enlever une bonne part de soucis et de stress.
Et cela dure longtemps, cette transition ?
Alors, pour la majorité des bébés, le docteur Grandsen fixe à 100 jours ce temps d'adaptation durant lequel il ne sert à rien d'essayer de réguler un bébé, ni sur le plan du sommeil, ni sur celui de la nourriture. En gros, pendant 3 mois, c'est open bar. Car autre idée basique qui, vrai ou fausse, je n'en sais rien, pour moi a été salvatrice, votre bébé sait ce dont il a besoin. Il sait s'il a sommeil ou pas, s'il a faim ou pas. Et donc, en dehors de gros problèmes médicaux, arrêtez de vous prendre la tête et acceptez de le suivre. Oui, c'est ça le lâcher. Prise.
Et ce temps de 100 jours, ça marche vraiment ?
Eh bien écoutez, alors scientifiquement j'en sais rien, on a des spécialistes qui vont pouvoir voilà, intervenir et nous dire ça précisément. En tout cas nous, avec mon mari, on a adoré ce chiffre tout rond. Déjà parce que pendant 100 jours, nous avons mis pas mal de questions sur pause. Elle dort pas la nuit ? Bon bah ok, hein, c'est crevant mais on verra dans 100 jours. Après tout, elle faisait bien la nouba dans mon ventre avant, pourquoi s'arrêterait-elle comme ça du jour au lendemain, juste parce qu'elle a vu le jour et a été dotée d'un prénom ? Elle réclame le sein 7 fois par jour ? Bah écoute, après tout ma chérie, si ça peut te faire plaisir. Hein. A-t-on déjà vu un nourrisson se rendre malade de trop boire de lait ? Je ne crois pas. Donc voilà, 100 jours qui libèrent donc de bien des questionnements inutiles. 100 jours surtout durant lesquels aussi, je crois, les organes intestinaux finissent de se mettre en place et ce n'est pas rien pour un petit. Alors bon, attention, je ne vous dis pas qu'à 101 jours, vous pourrez repartir pour des grasses mats sans fin le week-end, hein, ce serait un peu survendu. Mais en gros, à partir de là, tout est en place pour commencer à poser un rythme. Et vous, Ok, vous êtes crevé comme tout jeune parent qui se respecte, mais vous n'avez pas gâché votre énergie à vous battre contre des moulins. Donc chez nous, en tout cas, ce fameux 100 jours, ils ont vraiment fait leur preuve. Et docteur Grandsen, si vous m'écoutez aujourd'hui, cœur avec les doigts.
Le nourrisson oblige donc à s'oublier un peu.
Et oui, c'est sûr, aucun jeune parent ne dira le contraire. Mais ce que ce livre m'a pour ma part aidé à faire, c'est d'accepter cette petite parenthèse au lieu d'essayer de lutter. Car s'il y a bien une révolution à effectuer au moment de l'arrivée d'un bébé, c'est un peu ce décentrage. Depuis que vous êtes né, vous êtes en général votre principale petite source de soins. Et avec un nourrisson, vous devez vous mettre au service et au rythme d'un autre, sans condition. Et vous, vous passez un peu après. Donc gros changement, surtout pour les égoïstes comme moi. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si ensuite les enfants continuent de prendre un bon paquet de votre temps et de votre énergie, votre moi pourra reprendre sa place et ses droits. Alors en attendant, même si aujourd'hui vous donneriez tout pour une nuit complète, jeune papa, jeune maman, je vous invite à profiter, oui j'ose le mot profiter de ces biberons ou de ces tétés nocturnes, drôle de tête à tête plongé dans le silence de la nuit, vous verrez que plus tard vous y repenserez avec nostalgie et moins, et même avec une petite pointe de magie.
Ma vie de parent à podcaster sur l'appli France Inter, Ghislaine Dehaene.
Tout à fait vrai.
Adoubé par Ghislaine Dehaene et...
Exactement.
Et par Sylvie Chocron.
Je dirais juste, par contre, que les parents peuvent aussi, à partir de 80 jours, on va dire, expliquer à leurs bébés qu'ils n'en peuvent plus. Les bébés peuvent commencer à comprendre.
Et vous pouvez donc lire avec profit Bébé, dis-moi qui tu es, du pédiatre Philippe Grandsen. Dans quelques instants, continuez à explorer les fabuleuses capacités d'apprentissage des bébés et des enfants. On écoute Cat Power qui interprète Papa Power à 10h51.
The streets, run the cars, oh wow. Broken glass, but what about a broken heart? Please make me better.
Interprété Papa Power.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi sur France Inter.
Et en partenariat avec le mensuel Cerveau et Psycho, coup de projecteur sur les fascinants 3000 premiers jours des enfants de 0 à 7 ans. Alors Sébastien Boller, comment font les enfants pour apprendre tant de choses aussi vite? Les enfants sont paraît-il dotés d'une arme secrète, l'apprentissage implicite. Expliquez-nous en deux mots ce qu'est cet apprentissage implicite.
Bah, c'est la capacité à établir des relations entre plusieurs stimuli dans l'environnement pour comprendre comment fonctionne le monde autour de soi, et ce avant même d'avoir accès aux concepts complexes et au langage. C'est-à-dire un enfant, par exemple, au quotidien, qui entend un bruit d'une moto au loin et qui voit passer une moto, bah, il apprend qu'une moto, ça fait un bruit de moto, par exemple. Et ça, c'est une association entre différents aspects du réel qui se fait de façon implicite, sans qu'il y ait forcément un superviseur, un parent qui te dise, tu sais, une moto, ça fait broum. Voilà. Mm-hmm. Et ça se passe très très bien, même avant que le langage arrive, et jusqu'à 5-6 ans même, ça fonctionne à plein. Et ce qu'ont montré les recherches dont on parle dans cet article, c'est que progressivement ensuite arrive un autre type d'apprentissage qui est plus basé sur des consignes, sur une transmission de savoir.
L'apprentissage explicite,
qui fait intervenir beaucoup plus les parties du cerveau responsables de la prise de conscience explicite de ce qui nous entoure. Ce qui ne veut pas dire, parce que j'ai assisté à la conversation au début de débat, juste avant mon intervention, donc je fais attention, que l'apprentissage implicite disparaît chez l'adulte. Non, on continue à
établir plein d'associations. Mais qu'il n'y a pas d'apprentissage explicite avant, parce que quand vous faites sur l'imagier et que vous dites à l'enfant, c'est explicite.
Donc en fait,
les deux existent très rapidement et les deux continuent. Après, c'est le poids qu'on donne à chacun qui change avec l'âge.
J'aimerais qu'on termine avec Maguelon. Vous avez une question très intéressante. Vous appelez de Millau. Bonjour Maguelon.
Oui, bonjour. Alors, j'ai été tellement scotché par l'émission que j'ai eu du mal à... J'ai réagi tardivement. Ma question, c'est quels sont les effets de la mise à disposition d'écrans sur les jeunes cerveaux et les effets sur le cerveau. Et par exemple, les effets sur la transition allongée et passage à debout.
Très intéressante question de Maguelon, Sylvie Chocron.
Oui, alors rapidement, en fait, en gros, on conseille pas d'écran du tout chez les petits, chez les bébés, voilà. Et le moins possible, de toute façon, chez les enfants jeunes. Mais moi,
Pourquoi
je voudrais alerter surtout sur le fait que l'utilisation des écrans, actuellement, elle est problématique chez les parents qui ont des bébés. Donc, par exemple, quand vous allaitez en regardant une série ou en écoutant des messages ou en étant sur les réseaux sociaux, vous perdez ce moment d'interaction crucial avec le bébé qui, des fois, vous regarde alors que vous regardez votre écran. De la même manière, au parc, quand les seules interactions visuelles sont des moments où les parents prennent en photo ou font des vidéos de leur bébé et cet écran de téléphone masque le visage du parent parce qu'il est entre le bébé et le parent, on s'inquiète beaucoup en ce moment de l'usage des écrans par les parents pour des effets délétères chez les bébés. Ensuite, vous me demandiez pourquoi c'est pas bon pour les bébés. Ben parce que les bébés, ils ont besoin d'avoir toutes les modalités sensorielles plus l'action. Et les écrans, évidemment, ça va les attirer parce que ça bouge, parce que ça brille, parce que c'est très lumineux. Mais il n'y a pas le vrai toucher, il n'y a pas l'expérience du mouvement, des objets, etc.
Et l'interactivité,
bien sûr.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour en revenir sur les parents, il y a des expériences qui ont montré que si vous êtes en train d'interagir avec votre bébé, donc de lui apprendre quelque chose, votre enfant d'ailleurs, pas seulement les bébés, que tout d'un coup le téléphone sonne, vous arrêtez votre interaction pour répondre au téléphone et que vous revenez, en fait l'enfant n'apprend pas à ce moment-là. C'est-à-dire la même interaction il aurait appris si vous n'aviez pas été interrompu par le téléphone. Le fait d'interrompre l'interaction, en fait, empêche l'apprentissage.
Donc pas d'écran pour personne, ni pour les petits, ni pour les parents. Ils sont en interaction.
Merci beaucoup Maguelon pour votre question. En tout cas, nous avons encore beaucoup à apprendre des bébés et des enfants. Merci beaucoup Ghislaine Dehaene et Sylvie Chocron. Merci Sébastien Boller. Je recommande le nouveau numéro de Cerveau et Psycho consacré aux 3000 premiers jours. On peut également y lire un papier très intéressant sur la relation père-fille. Et Gonaëlle Boulay, vous êtes également rédactrice en chef de Pomme d'Api à la une.
Pomme d'Api et Poppy pour les tout-petits aussi. Donc deux magazines pour les tout-petits. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça c'est du temps interactif.
Et je rajoute que moi je conseille aussi ces magazines pour tous les enfants justement qu'on veut stimuler sur le plan visuel, verbal, intellectuel. C'est excellent.
À demain.